Chers camarades, chers amis, je voudrais d'abord vous remercier tout simplement d'être là, fidèles à ce rendez-vous pour partager ce moment fraternel et pour prendre le temps de discuter de la situation et des perspectives politiques pour les travailleurs. Tous les jours, la télévision et la presse évoquent des signes de reprise. Alors je ne vais pas m'étendre sur les possibilités que l'économie renoue avec la croissance, d'abord parce que personne n'en sait rien. Pas plus ceux qui sont au gouvernement que les experts économiques. Le gouvernement ne sait même pas si la baisse du chômage qui a été enregistrée au mois d'août est réelle ou si elle n'est que le résultat des tripatouillages statistiques. Alors, c'est dire qu'il navigue vraiment à vue. Mais surtout, parce que les travailleurs n'ont aucune raison de se laisser distraire par tous ces pronostics économiques. Parce que même si reprise il y a, qu'est-ce que cela changera pour le monde du travail ? Les travailleurs n'ont que faire de la reprise si les licenciements et les fermetures d'usines continuent, si les salaires restent bloqués, si le chômeur continue d'être condamné au petit boulot. Qu'il y ait 0, 0,5% ou 1% de croissance, qu'est-ce que cela changera si le gouvernement continue ses attaques contre les travailleurs et contre les retraités ? Les PDG des grands groupes peuvent, eux, se montrer confiants et optimistes, ça c'est sûr, parce que même au plus fort de la crise, ils ont réussi à préserver leurs profits et à garantir leurs dividendes à leurs actionnaires. Au pire moment de la crise financière, les affaires ont continué. Et même pour les banques, responsables du crack, qui ont été mises sous perfusion d'argent public. Bien sûr, les gros requins en ont profité pour manger les plus petits, mais si certains y ont perdu, d'autres y ont gagné. Et globalement, les capitalistes ont augmenté leur fortune et leur pouvoir sur l'économie. L'année dernière, alors qu'on nous disait que ça allait encore très mal pour les affaires, alors qu'on a compté chaque jour 1000 chômeurs de plus, eh bien le patrimoine des 500 plus riches du pays a augmenté de 25%. Alors oui, la bourgeoisie se porte très bien, mais elle a laissé derrière elle un champ de ruines, avec des travailleurs condamnés au chômage et à la misère, avec des usines fermées et des régions entières sinistrées. Oui, les grands groupes capitalistes ont profité de la crise, parce qu'ils en ont profité pour restructurer, pour licencier, pour fermer les usines devenues moins rentables et intensifier l'exploitation. Ils en ont profité aussi pour recevoir des aides et des exonérations en tout genre. Ils en ont profité pour faire reculer les salaires, pour faire reculer les droits des travailleurs des années en arrière, de façon à les transformer en main-d'œuvre malléable et corvéable. Tout cela avec la complicité d'abord du gouvernement Sarkozy-Fillon, puis, depuis un an et demi maintenant, avec l'aide servile du gouvernement Hollande-Hérault. Oui, la crise a bien profité au grand patronat, et il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Toutes ces attaques ont divisé et affaibli le monde du travail. Et même en admettant que la croissance revienne, le patronat ne cédera pas ce qu'il a gagné. Il ne le lâchera qu'à condition que les travailleurs se battent pour leur dû. Même aujourd'hui, alors que le grand patronat et le gouvernement se veulent rassurants, ils nous expliquent qu'il faut encore faire des sacrifices. Le pire est passé, disent-ils, mais ils continuent de s'en prendre au salaire, aux emplois, aux conditions de travail. Au nom de la compétitivité, ils se sentent tout permis. Le chantage vécu en son temps par les ouvriers de Bosch à Vénissieux est devenu aujourd'hui monnaie courante. En ce moment, dans la région, c'est la direction de l'usine Famar qui est passée à l'attaque. Mais demain, ça en sera une autre. Demander à travailler toujours plus en étant moins payé est devenu banal. D'autant plus banal que grâce au gouvernement Hollande-Hérault, c'est même devenu tout simplement la loi. Aujourd'hui, tous les grands patrons veulent leur accord de compétitivité, qui forcera les travailleurs à travailler plus pour moins de salaire, qui forcera les ouvriers à être encore plus mobiles, encore plus flexibles. Et pourquoi le patronat se gênerait-il quand le gouvernement fait à peu près la même chose dans le public, à la SNCF, dans les hôpitaux ou dans l'éducation ? Pour le grand patronat, Pour les grands actionnaires, pour le gouvernement, le pire est peut-être passé. Mais pour les travailleurs, le pire est à venir s'ils se laissent faire. Parce que la classe ouvrière, elle est attaquée de tous les côtés. Chômage, flambée des prix, aggravation des conditions de travail, sans oublier les impôts. Combien de travailleurs ont reçu un choc en ouvrant leur avis d'imposition ? Certains ont même cru à une erreur du fisc. C'est un coup de massue pour tous ceux qui sont devenus imposables et qui se retrouvent de plus en plus à devoir, et qui se retrouvent en plus à devoir payer la redevance télé, la taxe d'habitation. Mais c'est aussi un drame pour les travailleurs et les retraités modestes qui se retrouvent à devoir payer 100, 200, 300 euros d'impôts supplémentaires alors qu'ils se serrent déjà à la ceinture et alors que tout le monde sait que cela va empirer dans les mois à venir parce que le gouvernement a décidé d'augmenter la TVA, de baisser encore le plafonnement du quotient familial, de fiscaliser la part patronale qui participe à la complémentaire santé, etc., etc., etc. Contrairement aux mensonges du gouvernement, il n'y aura pas de pause fiscale en 2014. Les travailleurs vont avoir à payer encore plus d'impôts, et ne serait-ce que pour payer le cadeau de 20 milliards que le gouvernement Hollande fait au patronat chaque année au nom de la compétitivité. Et aucun travailleur ne pourra y échapper en plaçant son argent en Suisse ou dans un paradis fiscal comme les riches ont coutume de le faire. Mais l'autre aspect du budget 2014, les fameuses économies tant vantées par le gouvernement, sont tout aussi révoltantes. Ce ne seront pas 15 milliards d'économies pour la population. Ce seront 15 milliards de coupes dans les services publics, dans les collectivités locales, des milliards de coupes dans les budgets sociaux, des coupes pour les hôpitaux. Combien de suppressions d'emplois seront encore programmées dans les hôpitaux ? Combien de communes manqueront d'argent pour restaurer les écoles ou pour aider les familles à payer la cantine ? Combien de départements réduiront leurs aides sociales ? Et d'associations ? Combien d'associations seront sacrifiées parce qu'elles n'auront plus les mêmes subventions ? Tout ce que l'État et les collectivités locales ne feront plus, eh bien, il faudra passer par des entreprises privées pour l'obtenir, mais en payant. Alors non, ces 15 milliards ne sont pas des économies pour les plus pauvres, mais ce seront de nouveaux sacrifices. Et puis, il faut aussi beaucoup de cynisme pour oser parler du bout du tunnel, comme le font certains ministres ou certains députés du Parti socialiste, au moment où ils s'attaquent une fois de plus aux retraites. Où est-il ? Le bout du tunnel pour tous ceux qui voient leur retraite reculer et diminuer de réforme en réforme. Et ne parlons pas des jeunes qui se disent qu'ils devront cotiser toute leur vie sans même pouvoir être sûrs d'avoir une retraite. Il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps est devenu le leitmotiv de tous les dirigeants, gauche, droite confondus. Mais près de 5 millions de chômeurs voudraient travailler tout court. Avant de forcer les anciens à crever au boulot ou au chômage, eh bien, il faut embaucher les jeunes. Les socialistes qui avaient dénoncé la réforme des retraites de Sarkozy sont en train de l'entériner et de l'aggraver. Nous demandons de nouveaux efforts, mais avec plus de justice. Prétendent-ils. Mais quelle justice ! Même l'engagement de faire payer autant le patronat que les salariés, Hollande ne l'a pas tenu. Parce que pour les patrons, l'augmentation des cotisations sera compensée, mais les travailleurs, eux, eh bien, ils paieront. Tout est odieux dans cette nouvelle attaque contre les retraites. Jusqu'à la façon sournoise qu'a le gouvernement de voler les retraités en décalant la revalorisation des pensions du 1er avril au 1er octobre. Ce qui n'est en apparence qu'un petit report de date est un racket à grande échelle, puisque le gouvernement volera 1,5 milliard dans les poches des retraités. Alors, si les ministres et la bourgeoisie ont de quoi être optimistes, eh bien les travailleurs, eux, ils ont de quoi être en colère. À Avec la crise et avec la complicité du gouvernement de droite, puis de gauche, le grand patronat a aggravé l'exploitation. Il a perfectionné son système pour pressurer plus les travailleurs, pour les payer moins. Il a marqué des points dans la guerre de classe. Et cet avantage-là, il ne le lâchera qu'à condition que les travailleurs se battent pour leurs intérêts, pour revendiquer leurs dus. Les quelques milliers de grands bourgeois et de spéculateurs, qui ne sont que des parasites, ont été bichonnés quand les travailleurs, qui forment la classe productive, qui constituent la base indispensable du fonctionnement de la société, ont été affaiblis, acculés à la survie. Que les travailleurs fassent entendre leur voix, leurs intérêts d'exploiter, est aujourd'hui devenu une nécessité vitale pour eux, mais aussi pour la société et pour son fonctionnement. Les travailleurs ont le droit moral de se défendre, de se battre pour ne plus reculer et pour rétablir leurs conditions d'existence. La priorité et l'urgence pour les travailleurs, c'est la fin des licenciements, l'interdiction des licenciements et le partage du travail sans diminution de salaire, de façon à résorber le chômage. Pour ceux qui ont un salaire et un emploi à temps plein, la vie devient de plus en plus difficile. Eh bien, pour les chômeurs, c'est pire encore. Parmi ceux qui ont été licenciés ces dernières années, combien ont épuisé leurs droits au chômage et sont tombés dans les minima sociaux qui permettent tout juste de survivre? Combien sont menacés de perdre leur toit après avoir perdu leur emploi? Et combien parmi eux perdent complètement pied? Empêcher que l'on tombe au chômage est une question de survie. Au nom de la protection de la vie humaine, il est interdit aux propriétaires d'expulser leurs locataires pendant l'hiver. Eh bien, il faut se battre pour qu'au nom de la protection de la vie, il soit aussi interdit de licencier. Pour résorber le chômage, il faut qu'il y ait des embauches partout où le personnel manque, partout où la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables, partout où les salariés ne peuvent plus poser leur congé. Il faut des embauches en CDI, de vrais emplois, avec des salaires pleins et entiers. Et il faut arrêter avec ces contrats précaires scandaleux où tous les deux ans, un travailleur en remplace un autre mis au chômage. Il ne faut pas concentrer tout le travail sur de moins en moins de travailleurs. Il faut le répartir avec un salaire plein et entier pour chacun, parce qu'un emploi est le seul vrai droit pour les exploiter et chacun y a droit. Pour que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut relever le SMIC à 1700 euros net. Et il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, que le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, et ce, pour les salaires, les pensions de retraite et les minima sociaux. Si aujourd'hui, des retraités demandent à travailler le dimanche ou la nuit, ce n'est pas parce que ça les amuse. C'est parce qu'ils touchent justement des salaires de misère. Eh bien, que les patrons augmentent immédiatement leur salaire de 10, de 20% et on verrait qu'il manquerait de volontaires. La question du travail du dimanche, comme la question des heures supplémentaires, masque le seul vrai problème, celui des salaires. Et les travailleurs ne pourront pas le résoudre avec des arrangements individuels. La seule solution, c'est le combat collectif pour l'augmentation de tous les salaires. Ce sont des revendications élémentaires. À travers ces objectifs, les travailleurs ne font que revendiquer le droit à la vie. Mais c'est trop pour la bourgeoisie. Vous connaissez son discours ? Il n'y a plus d'argent, augmenter les salaires, embaucher, c'est impossible. Le pays a un problème de compétitivité. C'est pourquoi ces deux objectifs sont liés à un troisième, celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises. On ne peut pas, on ne doit pas croire sur parole les dirigeants de la bourgeoisie. Les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations pour la sécurité sociale versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Les mêmes qui refusent d'augmenter les salaires au rythme de l'inflation trouvent normal de verser des dizaines de millions aux grands actionnaires. Millions qui seront ensuite dilapidés dans des caprices de riches ou pire encore, dans la spéculation. Le grand patronat a érigé le mensonge en art de gouverner. À Saint-Fons, les 1500 travailleurs de Camoine qui sont menacés de perdre leur emploi en savent quelque chose. Et souvenez-vous, comment la direction de Peugeot-Citroën avait juré il y a 2 ans qu'il n'était pas question de fermer l'usine d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Alors même que la CGT de l'usine avait pris connaissance d'un document interne confidentiel qui prouvait le contraire. Et vous connaissez la suite, l'usine d'Aulnay a bel et bien fermé, et tout ça dans un des départements les plus sinistrés du pays, mettant encore 2800 travailleurs sur le carreau. Alors, contrôler, dévoiler les plans secrets des patrons ne remplace pas la lutte nécessaire pour les empêcher. Mais cela le facilite. Ceci permet de démontrer que les licenciements ne sont pas imposés sous la pression de pseudo-difficultés économiques, mais qu'ils sont pensés et programmés pour accroître la rentabilité et les dividendes des actionnaires. Alors, briser le secret des affaires, faire circuler les informations entre travailleurs et les rendre publiques est le seul moyen de vérifier, de savoir ce qu'il en est réellement des comptes, de l'argent qui entre et qui sort, et des problèmes réels des entreprises. Un ouvrier coûte trop cher, entend-on. Mais combien rapporte-t-il ? La bourgeoisie affirme qu'elle a apporté les capitaux et que c'est en vertu de cela qu'elle a tous les droits sur l'entreprise. Mais d'où viennent ces capitaux ? Et quels sont les montants aussi des aides publiques ? Et comment tout cet argent, tous ces profits qui sont réalisés par les travailleurs sont-ils utilisés ? Même le combat, ne serait-ce que pour faire embaucher un apprenti ou un stagiaire, pour obtenir une augmentation de salaire, et tout simplement pour faire respecter les droits des travailleurs, nécessite de s'immiscer dans les comptes de l'entreprise. Il nécessite de contrôler les dires du patron et de le mettre sous la surveillance collective de tous les travailleurs. Mener à bien les luttes quotidiennes nécessite aussi de ne pas tomber dans le piège de la propagande pour la compétitivité. Le patronat et la droite, son allié naturel, ont toujours cherché à faire croire que l'avenir de l'économie, du pays, de ses travailleurs, de ses chômeurs, de ses jeunes, de ses vieux, dépendait de la compétitivité des entreprises. Ils ont toujours défendu l'idée que l'augmentation de la compétitivité devait être le seul et l'unique objectif de toutes les politiques publiques. Eh bien, depuis qu'ils sont au pouvoir, les socialistes s'y sont mis aussi. Certains dirigeants syndicaux s'y sont mis aussi. Sans compter la multitude d'experts et de journalistes économiques qui le répètent 100 fois par jour, comme s'ils voulaient l'enfoncer dans tous les esprits à coups de marteau. Mais qu'est-ce que les travailleurs ont à gagner à cette bataille de la compétitivité ? Prenez l'Allemagne. Oui, l'Allemagne a mené la bataille de la compétitivité, mais cela s'est fait en baissant les salaires, les allocations chômage, les droits à la retraite. Cela s'est fait en généralisant les petits boulots. Aujourd'hui, l'Allemagne bat des records d'inégalités. De plus en plus de travailleurs en sont accumulés 2-3 petits boulots pour vivre. D'autres ont perdu 200, 400, 600 euros sur leur fiche de paye. Des retraités doivent se remettre à travailler à 65, 67 ans. L'espérance de vie régresse même dans certaines régions d'Allemagne. Tout cela donc dans un pays qui est montré comme le modèle de la réussite. Et puis aujourd'hui, en 2013, celui qui revendique un emploi en CDI, la retraite pleine et entière à 60 ans, avec 37,5 annuités de cotisation. Celui qui revendique un salaire digne de ce nom est au pire un dangereux extrémiste, au mieux un utopique. C'est-à-dire que ce qui existait il n'y a que 20 ans est devenue aujourd'hui une folie utopique. Voilà le résultat de la course à la compétitivité. Pour les travailleurs, la compétitivité, c'est le grand retour en arrière. C'est l'exploitation, c'est le travail à la tâche, ce sont des salaires de misère. La compétitivité et le capitalisme sont les raisons d'être des capitalistes, pas des travailleurs. La bourgeoisie veut impliquer les travailleurs dans sa guerre économique qu'elle mène contre ses concurrents. Eh bien, les travailleurs n'ont aucune raison de marcher. Comme ils n'ont aucune raison d'être attachés à cette économie stupide, aucune raison d'accepter de se sacrifier pour cette économie qui est basée sur leur propre exploitation, qui est basée sur leur appauvrissement. Faut-il accepter que nos vies dépendent des commandes que son patron saura arracher au détriment d'autres travailleurs ? Faut-il accepter que notre salaire dépende des bonnes affaires que notre patron fera ? Non. Les travailleurs n'ont pas à se laisser prendre au piège de la propagande sur la compétitivité. Ils doivent revendiquer leur dû, sans se soucier des conséquences sur la compétitivité ou sur les profits, sans se soucier de gêner les affaires de la bourgeoisie. La seule perspective pour la classe ouvrière est de se battre pour ses intérêts propres, pour sa survie, quoi qu'il en coûte au patronat. Et si la bourgeoisie et ses serviteurs politiques ne sont pas capables d'assurer le minimum aux travailleurs, eh bien qu'ils laissent la place. Si ce système capitaliste n'est pas en mesure de garantir aux exploités leurs droits élémentaires à avoir un emploi et à en vivre, eh bien il faut le renverser. Les travailleurs ne pourront se défendre efficacement que s'ils ont conscience qu'ils ne doivent pas laisser les capitalistes dire et faire ce qu'ils veulent. S'ils ne craignent pas de contester à la bourgeoisie son droit de propriété et de décision sur les entreprises. Que s'ils ne craignent pas de s'attaquer à la propriété du capital. Faire croire que la propriété privée des grands moyens de production est le summum de la liberté d'entreprendre fait partie des nombreux mensonges de la bourgeoisie. La propriété privée de la bourgeoisie sur les grands moyens de production est assise sur la confiscation de la propriété des plus petits, sur la confiscation de la propriété des artisans et des sous-traitants par leurs donneurs d'ordre, sur la confiscation de la propriété des petits paysans par la grande distribution, par les banquiers. Quant aux exploités, quant aux travailleurs, ce système les prive complètement de la propriété, y compris de la seule qu'ils ont, leur force de travail, en les transformant en chômeurs. Si encore ces grands PDG des trusts capitalistes dirigeaient bien l'économie, si leur économie tournait rond, les travailleurs pourraient s'interroger, avoir des doutes. Mais ce n'est pas le cas. L'économie capitaliste, basée justement sur la concurrence, sur la compétition de tous contre tous, c'est une jungle. C'est une économie ingouvernable. Chacun prend ses décisions en fonction de ses intérêts et ses calculs propres. S'il est plus profitable de produire et de vendre des armes, va pour le commerce des armes, quitte à déclencher de nouvelles guerres. S'il est plus rentable de spéculer que d'investir, va pour la spéculation, quitte à déclencher famine et crise mondiale. Oui, l'organisation capitaliste est une organisation fondamentalement, génétiquement irresponsable. Et qu'elle soit incapable d'assurer la survie de ceux qui la font tourner, c'est-à-dire des travailleurs, la condamne. Comme disait Marx, dans la société capitaliste, les travailleurs n'ont à perdre que leur chaîne. Les travailleurs réagiront tôt ou tard aux attaques. Et pour que leur combat ait une chance d'être mené jusqu'au bout, il faut faire revivre cette conscience de classe et les idées communistes révolutionnaires que le mouvement ouvrier a portées pendant bien des années. Depuis que la classe ouvrière existe, les travailleurs se sont toujours battus pour leurs conditions d'existence. Mais c'est à l'honneur du mouvement ouvrier conscient que d'avoir défendu aussi des idées bien plus générales, celle de la critique radicale de la société capitaliste, de son caractère injuste, incontrôlable, anachronique. La perspective tracée par le mouvement ouvrier révolutionnaire ne se bornait pas à la défense des exploités, mais à leur émancipation et à l'émancipation de toute la société du joug de l'argent. C'était la perspective de détruire la société capitaliste, de la remplacer par une société sans exploitation, sans la dictature des profits. Le mouvement ouvrier a levé non seulement le drapeau de la défense des exploités, mais aussi le drapeau de la société communiste. La transmission de ces idées et de ces valeurs propres à la classe ouvrière et au mouvement ouvrier s'est affaiblie au fur et à mesure des trahisons des partis ouvriers, du Parti socialiste, puis plus tard du Parti communiste, qui se sont intégrés dans la société bourgeoise et qui se sont transformés en gestionnaires loyaux des affaires de la bourgeoisie. En justifiant leur participation gouvernementale, en justifiant la politique anti-ouvrière qu'ils y menaient, ils ont distillé au sein de la classe ouvrière les valeurs et les idées bourgeoises. Au point qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs, rebaptisés classe moyenne, considèrent que l'économie doit être compétitive et qu'en fin de compte, l'intérêt des exploités, c'est que leurs propres exploiteurs s'enrichissent toujours plus. Au point aussi que les idées nationalistes et protectionnistes étrangères au mouvement ouvrier sont présentées aujourd'hui comme des évidences. Depuis longtemps, le Parti socialiste est dévoué corps et âme à la bourgeoisie. Mais il essayait de se différencier de la droite en parole, en faisant entendre ne serait-ce que de vagues idées de tolérance et d'humanisme. Ce n'était certes que des mots, mais il n'en reste plus rien aujourd'hui. C'est ainsi que Valls, ministre de l'Intérieur, peut déclarer, droit dans ses bottes, que les Roms ne peuvent pas s'intégrer et qu'ils doivent être chassés. Sans que cela n'émeuve grand monde au Parti socialiste, Valls fouille dans les poubelles du Front national. Parce que faire croire que 20 000 Roms est un problème insoluble pour un pays de 65 millions d'habitants est écœurant. Valls, à la suite de Rocard, explique qu'on ne peut plus ajouter de la misère à la misère et que la seule solution, c'est de chasser les Roms, les pauvres parmi les pauvres. Mais justement, cette misère, eh bien, elle se combat. Et c'est ce que le Parti socialiste a renoncé à faire depuis bien longtemps. Eh bien, ce n'est pas notre cas. À la trahison des intérêts de la classe ouvrière par les partis ouvriers s'ajoute la politique tout aussi démobilisatrice des centrales syndicales. Je parle des directions nationales des syndicats, qui dans le meilleur des cas font mine de s'opposer sans réellement armer les travailleurs politiquement et qui au pire justifient et appuient les attaques du gouvernement et du patronat en contresignant des mesures anti-ouvrières. La perte des repères de classe, ces trahisons successives ont au fil des décennies dérouté et déboussolé les travailleurs. Que certains parmi les travailleurs envisagent de voter pour le Front national, l'ennemi ouvert des travailleurs, ne serait-ce qu'en imaginant donner un coup de pied dans la fourmilière, donne la mesure du recul de cette conscience de classe. Ce n'est certes pas au nombre que nous sommes que nous pourrons inverser la tendance et faire reculer toutes ces idées réactionnaires. Celles-ci se nourrissent d'ailleurs de la situation objective, parce que c'est sur le chômage, l'isolement et la misère que prospèrent le chacun pour soi, la délinquance et la violence, et que prospère leur pendant, tout aussi réactionnaire que sont le rejet des autres, la xénophobie. Mais le fait d'être les seuls à défendre les idées et les perspectives propres à la classe ouvrière rend notre activité et notre politique d'autant plus précieuses et indispensables. Oui, il faut reconstruire un parti qui oppose à tous les partis dévoués au système capitaliste une politique propre aux travailleurs, une politique qui ait pour objectif de préserver les intérêts de ceux qui travaillent, une politique de classe qui oppose la classe ouvrière à son ennemi social, la classe capitaliste qui vit de l'exploitation. Un parti qui prenne systématiquement le contre-pied des idées et du langage patronal. D'un parti qui aide les travailleurs à se battre pour leurs propres intérêts en dénonçant le capitalisme, la propriété bourgeoise, les lois du profit. Je l'ai dit, la victoire des luttes, y compris les plus petites, sont intimement liées à la conscience des travailleurs d'avoir à mener une lutte à mort contre la bourgeoisie. Elle est liée à la présence dans la classe ouvrière des idées et des perspectives communistes révolutionnaires. Le combat des travailleurs pour les objectifs vitaux et pour renverser la société capitaliste ne font qu'un. Il faut donc continuer à faire entendre cette voix, comme nous le faisons, dans nos activités quotidiennes. Et il faut nous saisir des occasions politiques qui nous sont données, comme ce sera le cas avec les élections municipales et européennes de l'année qui vient. Pour que les travailleurs ne soient pas réduits à devoir choisir entre des candidats qui se placent tous dans le cadre de l'organisation capitaliste et sur le terrain de la bourgeoisie, et pour qu'ils puissent faire entendre le camp des travailleurs contre la bourgeoisie et ses serviteurs politiques, nous essaierons d'être le plus présents possible dans ces deux élections. Les travailleurs deviendront une force politique capable de peser quand ils opposeront à l'Union nationale et au poison de la préférence nationale, la préférence de classe. Quand ils diront les exploiter d'abord et quand ils auront conscience qu'ils doivent se battre pour le pouvoir parce qu'ils peuvent collectivement diriger mille fois mieux la société et l'organiser sans la recherche du profit, sans la concurrence, sans les lois du marché. Les grands et les petits combats se mènent d'abord dans les têtes, dans la conscience que les travailleurs ont de leur capacité et de leur rôle dans la société. Sur ce terrain-là, nous pouvons être utiles et préparer l'avenir. Il y a bien des choses que nous ne pouvons pas faire et pas empêcher, mais il y en a au moins une qui dépend de nous, c'est de dire ce que nous pensons, c'est d'affirmer notre politique communiste révolutionnaire, c'est faire vivre nos idées parmi les travailleurs. Alors camarades, je vous souhaite une bonne fête et bon courage pour continuer le combat.